France Culture.
Linda, c'est Émilie. Bah, ça a même pas sonné cette fois-ci. Écoute, je commence à être un peu inquiète parce que ça fait plus d'un mois, un peu plus d'un mois que ton téléphone sonne dans le vide. Alors j'espère que tu vas bien. Et en plus, j'ai pas trop de moyens d'avoir des nouvelles de toi par ailleurs, donc voilà, je m'inquiète un peu. Bah écoute, je t'embrasse et je suis désolée si ces messages t'importunent. Voilà, j'ai envie de qu'on perde pas notre lien. Je t'embrasse très fort et je suis là pour toi quand tu voudras. À très vite.
Être une sœur. Émilie Chaudet, Marie-Laure Ciboulet.
Donc là, je vous reçois pour une séance de constellation familiale en individuel. Ah, c'est à vous, c'est votre espace. Alors, je vous laisse me dire ce qui vous amène, ce sur quoi vous avez envie de travailler.
Eh bien, en fait, moi, j'ai envie de faire une constellation familiale parce que j'ai une famille qui est habitée par le silence et le secret. J'ai déjà eu l'occasion d'en percer un central sur ma filiation. Là, il y a une question qui, en fait, me fascine depuis quelques années, depuis même pas mal d'années, et qui, là, en fait, commence à m'obséder vu tout ce que j'ai vécu ces dernières années, ces derniers mois. C'est pourquoi je n'arrive pas à faire famille avec mes frères et sœurs. Pourquoi les liens qui m'unissent à mes trois demi-frères et à ma demi-sœur ne résistent pas. Et je ne sais pas à quoi ils ne résistent pas aussi. Voilà, c'est l'autre difficulté, c'est que je ne sais pas pourquoi on n'a pas de lien frère-sœur, en fait.
Alors, vous allez me redire votre place dans la fratrie et de quel côté sont ces demi-frères et sœurs?
Moi, je suis la petite dernière. Moi, je suis née en 1985. J'ai deux demi-frères. Un qui est né, Philippe, donc, qui est né en 1965. Patrick, qui est né en 1968. On a le même père, père biologique pour moi. Je pense que je n'ai pas été élevée par ce père-là. Et avec ce même père, qui s'appelle Pierre, j'ai aussi une demi-sœur qui est née en 1972. S'appelle Linda.
Tous les trois, ils ont des mères différentes, là, les trois enfants du même père?
Les deux filles ont la même mère, et Linda a une autre mère encore. Et moi, j'ai encore une autre mère, voilà. Donc, on a juste un père en commun avec ces trois-là, et après avec donc un troisième demi-frère qui s'appelle Didier, qui est né en 1980, je partage la même mère.
D'accord, mais pas le même père.
Mais pas le même père.
Ok. Et donc, il n'y a aucun de ces enfants avec lesquels vous avez grandi, été élevé ou...
J'ai grandi et j'ai été élevée avec Didier.
Ok. Et avec lui non plus, il n'y a pas de lien?
Eh bien, il y en a eu un quand on était petits, on jouait ensemble. Voilà, de mes 0 à mes 7 ans, on a occupé la même chambre. Il m'a aidée dans mes devoirs, etc. Voilà, on a eu une vie de frère et sœur enfant. Mais en fait, le lien s'est rompu quand moi, j'ai appris qu'on n'avait pas le même père et que j'ai essayé de lui apprendre la nouvelle. Et en fait, lui a rejeté ma parole et moi, je croyais qu'il ne le savait pas. Et j'ai appris plus tard qu'il le savait, depuis toujours. Et quand je lui ai dit, voilà, je voulais te dire qu'on n'a pas le même père, il a rejeté et discrédité ma parole. Et depuis 2019, en gros, on n'a plus de lien. C'est-à-dire qu'on a rompu ce jour-là.
Ok. Donc vous pensiez que le père qui vous avait élevé était votre père biologique et vous avez appris à ce moment-là que ce n'était pas votre père, mais c'est quand même le père de Didier, c'est ça?
Alors oui, a priori, c'est le père de Didier, mais bon, enfin, j'ai des doutes par rapport à ça aussi, que j'ai pas encore eu l'occasion de lever, j'ai pas de moyen de le faire là. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas le même père avec Didier, c'est sûr.
Ok, donc là, votre demande, ce serait d'avoir plus de proximité avec donc ces 1, 2, 3, 4 demi-frères et sœurs, c'est ça? Et donc, vous n'avez aucun frère ou sœur des deux mêmes parents?
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc là, donc il y a votre frère avec lequel vous avez été élevé, Didier, avec qui vous parlez plus, et les autres, vous les connaissez, vous les avez rencontrés?
Philippe et Patrick, je les ai connus déjà petites, mais ça, je m'en souviens pas. Eux ont toujours su que j'étais la fille de leur père. Philippe et Patrick, je les ai re-rencontrés, disons, au moment où j'ai découvert ce secret. Et ça a été assez joyeux comme retrouvaille. Ils m'ont tout de suite appelée sœurette, petite sœur. Enfin, voilà, ce qui me faisait un peu bizarre. Mais j'ai nourri un lien avec Philippe, notamment, donc l'aîné. Et ce lien s'est rompu l'été dernier. C'était la première fois qu'on se revoyait après la mort de Pierre. Et j'ai senti qu'il y avait une cassure entre nous. Avant, il m'appelait sa sœur, et puis cet été, il s'est mis à m'appeler auprès de ses amis comme sa demi-sœur. Avant, il appelait mon fils de 3 ans, son neveu, et puis il s'est mis à l'appeler le fils de ma demi-sœur. Enfin, j'ai senti des changements comme ça.
Okay.
Et avec ma demi-sœur Linda, c'est encore un autre dossier, parce que c'est moi qui l'ai retrouvée. C'est Pierre, mon père biologique, qui m'a dit « Tu sais, je crois que j'ai eu une autre fille que j'ai pas reconnue. » Donc je l'ai retrouvée en enquêtant un peu, et donc je les ai fait se rencontrer, ça s'est très bien passé. Et du coup, on a eu un lien vraiment privilégié avec Linda, parce que j'ai été un peu sa courroie de transmission. J'étais la seule à pouvoir l'avertir de la mort de Pierre, donc elle est venue aux obsèques, et sinon elle n'en aurait jamais rien su en fait. Et Linda, c'est très étrange parce qu'on avait vraiment un lien régulier et on avait beaucoup d'attention l'une envers l'autre. Et en fait, du jour au lendemain, elle a cessé de répondre à mes appels et à mes messages. Et ça date, c'est très récent.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Émilie.
Oui, Émilie, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien, et vous-même ?
Ça va, merci. On se tutoyait, on se vous voyait, je ne sais plus.
On va se tutoyer.
Oui, on va se tutoyer.
Ciao.
Ok. Bah écoute, ça fait longtemps que je pense à toi et je me dis que ce serait bien que je te demande de tes nouvelles, parce que ça fait quand même quelques années qu'on ne s'est pas recontacté depuis qu'on s'est vu avec Pierre. Et puis là, je profite aussi. En fait, ça fait plusieurs fois que j'essaye de joindre Linda et que je la trouve pas du tout et qu'elle me rappelle pas. Alors, c'est pas grave du tout parce qu'elle n'a aucune obligation à me rappeler. Hein. Mais je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien, en fait.
Bon, ça va, j'étais même encore avec elle au téléphone ce matin.
Ah, d'accord.
Donc, ça va.
Ok.
Ça va.
Bon, très bien. Bah, au moins, elle va bien, quoi.
Je lui dis à l'émission qu'elle s'appelle à l'occasion.
Bah, si elle peut, si elle veut, oui. Parce que je comprendrais qu'elle veuille prendre des distances parfois. Enfin, c'est pas une histoire très facile.
Non, c'est pas une histoire facile du tout. C'est vraiment pas. Enfin, même nous, hein, d'ailleurs. Hein.
Bah oui, je
comprends. Même si c'est pas complètement la même chose, mais.
Non, mais. Quand
on découvre comme ça que sa mère avait. Voilà, c'est pas évident à gérer. Mais bon.
Parce que pour toi, ça a été difficile aussi
quand
de
même.
Découvrir que ta mère avait une histoire avec un autre homme.
Ouais, exactement. Exactement, c'était pas facile, mais bon.
Ouais, j'imagine.
Mais on n'en a plus jamais reparlé, je crois, d'ailleurs.
C'est vrai, vous en avez plus jamais reparlé ensemble, Linda et toi de...
Non, on en a parlé juste quand elle était venue, donc l'enterrement, en fait, à l'église, je crois que c'était, en fait, au hôpital, je sais plus. Et ben voilà, ça, en mai
prochain,
ça va
faire 3 ans bientôt.
Ça fera 3 ans qu'on en a plus reparlé, donc ça veut dire ce que ça veut dire.
Marwan est le demi-frère de ma demi-sœur.
Allez, bonne fête, Jonathan.
Merci, au revoir.
C'est en retrouvant son contact que je suis arrivée il y a 5 ans jusqu'à elle, Linda. Cette demi-sœur inconnue de 12 ans de plus que moi. Quand j'entends Marwan évoquer la mort de Pierre, je repense à ce moment lunaire où, dans une chambre mortuaire, Linda et moi nous sommes retrouvés, nous tenant les mains devant le corps de notre géniteur commun. Ça nous semblait irréel. Tout se bousculait dans nos regards. Ce corps, tout près de nous, qui nous a transmis ses gènes, ces années passées sans se connaître ni savoir, cette recherche au fond de nos yeux d'un signe de reconnaissance et d'une ressemblance. Nous nous sommes vus 2 fois avec Linda, et à chaque fois, nous nous sommes regardés comme ça. Puis Linda a repris le train tout de suite après la cérémonie. Le lendemain, elle m'a envoyé un message que je n'oublierai jamais. Dans ce moment où elle venait de perdre ce père à peine connu, rencontré une seule fois dans sa vie, elle me disait qu'elle était heureuse. La vie, disait-elle, lui avait offert ce cadeau, une petite sœur. Son message m'a tellement consolée. J'ignorais encore à ce moment-là que je ne la reverrais plus.
va voir ce qui se montre en constellation. Je vais tirer les personnages à l'aveugle et on va voir ce qui se montre. Ok.
Ok.
Alors, on va commencer par tirer un personnage qui vous représente. Donc, j'ai tiré ce personnage.
D'accord. C'est un Playmobil roux avec un petit gilet sans manches et un jean et des bottes noires.
Donc, est-ce que vous avez une indication à me donner sur comment vous voulez le placer ?
Puisque l'espace est vide, debout là, comme ça, c'est très bien. Pas tout à fait au centre, mais quand même pas trop en retrait non plus.
Alors, on va tirer des personnages pour représenter vos frères et sœurs. Alors, on va commencer par l'aîné, donc Philippe.
C'est ça.
Ok. J'ai tiré un chien.
D'accord.
Vous le placeriez où par rapport à vous ?
Là, juste, oui, en bordure de table, je dirais. Oui, voilà, très bien ici, c'est bien, ouais. Il est assez éloigné de moi.
Donc on va tirer un personnage pour représenter votre deuxième frère, Patrick. Donc j'ai tiré ce personnage.
Donc, c'est un vieux Playmobil barbu. Avec une salopette.
Voilà, il est en bleu et rouge.
Moi, je le mettrais plutôt à la gauche du chien. Donc, à côté de son frère, mais le plus loin possible de moi. Voilà.
Ok, ben on va placer donc Linda. J'ai tiré ce personnage.
Ah, ben ça lui va bien. C'est une petite dame avec une robe très colorée et une queue de cheval brune. Ça lui ressemble.
Un foulard autour du cou.
Alors Linda, elle, je la mettrais vraiment loin des deux frères, de dos à tout le monde. Je pense qu'elle ne veut pas nous voir, oui.
Ok, on peut la mettre comme ça pour l'instant. Et par rapport à elle, là, si je tourne un peu votre personnage vers elle, qu'est-ce que vous ressentez ?
Bah ouais, je la cherche, oui. Ouais, c'est bien, c'est assez représentatif. Bon, après, je la cherche et du coup, je regarde plus du tout mes deux demi-frères.
On va placer votre frère Didier, du coup. Alors, j'ai tiré une femme.
D'accord, une femme blonde avec un foulard à fleurs autour du cou.
Et un bras, si on la laisse dans cette position, elle a un bras qui tire vers l'arrière, hein, comme si...
Ouais, qui est comme retenu.
Retenu, ouais. Ou tiré par le passé, ou je ne sais pas.
Et Didier, je le mettrais de dos à moi, et de dos à tout le monde. En fait, il regarde personne. Ouais, c'est bien ici.
Alors, comment c'est, là ? Donc là, il y aurait toute votre fratrie vivante, on va dire. Hein. Quand vous regardez le tableau général, hein, qu'est-ce que ça vous... Est-ce qu'il y a des émotions ? Est-ce qu'il y a des sensations dans le corps ?
Ça me donne mal à la tête. Enfin, je me sens fatiguée. En fait, ils sont tous dans mon champ de vision. Et finalement, il y en a deux sur les quatre qui ne me regardent pas du tout. Et les deux autres qui font... j'aurais presque envie de dire qu'ils font semblant de ne pas me voir, quoi.
C'est ça. C'est un peu comme si vous, vous regardiez tout le monde et personne ne vous regarde. Alors, en constellation familiale, on est très attentif à l'ordre dans la famille. Qui arrive en premier, qui arrive en second, qui arrive en troisième. Et en général, ce qu'on dit, c'est que c'est pas les petits qui peuvent aider ou sauver les grands. Donc, c'est rarement le petit dernier d'une famille qui peut venir sauver, soutenir, aider, que ce soit les grands frères et sœurs ou les parents ou les grands-parents. Mais c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent les petits qui veulent venir aider les grands.
Les images qui me viennent quand je pense à ma fratrie sont celles d'un désert ou d'un champ de ruines. Et depuis longtemps, avant même de connaître mon histoire familiale, j'ai toujours aimé observer les frères et sœurs autour de moi. Je me suis toujours entourée de fratries soudées, en les regardant tour à tour avec admiration et envie. Pourquoi, pour moi, ça ne marche pas ?
Bah, je vous propose qu'on place vos parents. On va commencer par votre maman. J'ai tiré un éléphant. Après, il est dans une position, si je le laisse comme ça, il n'est pas très stable. Ah, il peut tenir. Bah, il a la patte d'avant tendue vers vous, là, si on le met là. Je ne sais pas si ça vous parle de la placer là, votre maman.
Alors moi, je la mettrais plutôt à côté de mon frère Didier. mais pour autant le visage tourné vers moi.
Si on regarde là ce qui se passe, il y a et votre maman et votre frère Didier finalement qui tendent les bras vers vous. Hein. Alors votre frère sans vous regarder et votre maman en vous regardant. Alors on va placer vos deux pères peut-être, le père. Alors depuis tout à l'heure, il y a votre sœur qui tombe un peu. Hein.
Elle refuse cet espace familial, hein, je crois.
Ouais, elle essaie de s'échapper. On va tirer peut-être deux personnages pour votre père biologique et puis votre père, le père qui vous a élevé. Vous voulez commencer par qui ?
Peut-être par là, ce qui me vient, mon père Daniel qui m'a élevé. Mon père.
Alors, c'est comme un chevalier un peu, hein, avec une armure dorée, un casque. Pour l'instant, il est plutôt assis. Donc, on peut le mettre comme ça pour l'instant. On verra si on le redresse.
D'accord, oui. Assis, c'est bien. Il faudrait le mettre proche de ma mère, donc tout près de l'éléphant.
Ok. On va placer votre père biologique pour voir. Encore un homme en armure. Il a un casque aussi, il est assis également. Il a un bras levé, mais il a un casque sans visière, lui, comme s'il pouvait voir un peu mieux quand même. Puis ils sont bien carapacés, en tout cas, avec les armures.
Ils sont pas là pour se battre, ils sont là pour se protéger, quoi.
Oui, c'est plutôt ça, hein. Vous le mettriez où, votre père biologique, là ?
Je le mettrais entre le petit bloc de Patrick et Philippe et moi. Ouais. Donc là, on a la photo de famille un peu complète, quoi.
Je remonte dans mon arbre généalogique. Mon père biologique, lui, a toujours et jusqu'au bout eu un lien fort avec sa sœur. Mais mon enfance, faite de secrets et de silences, s'est passée sans sa famille à lui. Et je me rends compte que les oncles et les tantes n'ont jamais été présents dans ma vie, alors que je les voyais bien pourtant dans les albums, en randonnion, uniforme, coupe au bol et petite soquette côté paternel, ou alors affichant leur joyeuse proximité sur une plage de la Goulette ou dans le patio de la maison familiale, côté maternel. Où sont-ils passés ? Que sont-ils devenus, tous ces gens ? Il y a quelques années, j'ai longuement interrogé mon père sur une vie et une famille qu'il ne m'avait jamais racontée.
Toi, t'es le combien ? T'es pas l'aîné ?
Je suis le deuxième.
Ah, t'es le deuxième. Ouais. Avant toi, il y avait...
Une sœur.
Jacqueline.
Jacqueline, ouais. D'accord. Jacqueline. Ouais, moi, je suis le deuxième.
Toi ?
Moi. Après, il y a Arlette.
Arlette.
Ginette, Joël et Jean-Louis.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Ok. Ouais. Et tes frères et sœurs, ils ont travaillé pareil, aussitôt que toi, vers 14-15 ans, ou qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Non... Ma sœur, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a. Elle a commencé comme vendeuse et après, dans une maison de retraite, elle avait été. Après, je ne sais plus très bien ce qu'elle a fait en réalité. Alors, mon autre sœur, elle, je l'ai perdue quand elle avait.
Arlette,
quand elle avait 11 ans.
Ah oui, elle est morte à
11 ans parce qu'elle a eu des rhumatismes articulaires et ça y est monté au cœur et elle est décédée. Et moi, j'ai eu la même chose, les rhumatismes aussi. Pendant 6 mois, j'ai été au lit avec des piqûres tous les jours.
D'accord.
Voilà.
Et Ginette, elle a fait quoi comme travail ?
Elle avait continué un peu les études, mais pas très loin, je crois. Et après, elle était partie de la région pour aller sur la région parisienne et travailler dans des cafés-restaurants comme serveuse,
ah oui,
dans des bars. Alors Joël, malheureusement, il a eu un accident de voiture, un camion qui l'a renversé. Et malheureusement, il est décédé.
Ah. Ouais. C'était le plus jeune, lui, de la famille ?
Non, le plus jeune, c'est
Jean-Louis. Ah, c'est Jean-Louis.
Jean-Louis. Ah oui, c'est Jean-Louis.
Qui est encore vivant. Lui.
Oui.
Ouais.
Oui, je pense, oui. Voilà, c'est un peu...
Un peu quoi ?
famille un peu bizarre.
Pourquoi tu dis ça?
Ben parce qu'on s'est tous disloqués un peu, voilà, chacun de son côté, et voilà.
Quand j'ai appris il y a quelques années que mon père n'était pas mon géniteur, je me suis dit un peu vite que je n'héritais donc pas de son histoire. Mais tout ça n'est pas si simple. Il m'a élevée, j'ai grandi avec lui, et je me suis donc nécessairement constituée de lui aussi, et de son vécu.
Toi, ça te fait du mal ?
Non, mais c'est bête, quoi. Oui. C'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Comment t'expliques
Ben c'est le départ des uns et des autres, à droite, à gauche, et qui a fait qu'on s'est perdu de vue, et après on essayait de se revoir, et en fin de compte, on n'avait plus d'attirance vraiment ensemble. Donc,
toi, t'aimais plus retrouver...
Dans ces cas-là, vaut mieux couper carrément, et puis voilà. Hein. Voilà.
Par ailleurs, j'hérite bel et bien de l'histoire de ma mère. Une histoire de migration de Tunis à Paris, faite de trous, d'absence, d'incompréhension, et pour laquelle ma mère ne m'a transmis aucun outil, et surtout pas le plus précieux, sa langue à elle, celle de ses parents et de sa fratrie. J'ai donc raté beaucoup d'épisodes. Je cours après un oncle, Nordine, disparu, dont personne ne sait où il vit, dont personne ne semble se soucier et qui est pourtant omniprésent dans les albums familiaux. Et là, alors que je veux reprendre cette enquête mille fois abandonnée, faute de pistes et d'alliés, je me tourne à nouveau vers Internet et le fil de mes recherches me mène à une nouvelle inattendue. J'apprends la mort récente d'un autre oncle, Lamine, sur un site lambda de nécrologie. L'oncle Lamine, beau-frère de ma mère, est le seul oncle que j'ai jamais fréquenté. De mes 15 ans à mes 25 ans, entre deux disputes familiales dont je n'ai jamais eu l'explication. Ce jour-là, devant mon écran, ma colère empêche mes larmes de sortir. Dans quelle famille trouve-t-on le faire-part de décès d'un proche sur Internet ? J'écris au fils de Lamine, mon cousin Ahmed, qui me rappelle quasi immédiatement. Ça fait presque 20 ans qu'on ne s'est pas parlé.
Je pense vraiment qu'il y a un historique que nous n'avons pas. Et après, c'est une mentalité. La mentalité tunisienne, pour avoir baigné dedans petit, été en Tunisie, c'est vrai que c'est un autre monde. Tu vois, par exemple, ton attitude, parler calmement, posément, c'est quelque chose qui n'existait pas dans notre famille. Ah non, non, c'est assez sanguin.
Mais toi, ça t'a jamais manqué de ne pas avoir cet historique, justement
Non, mais je m'en suis même enfui. Quand je vois que mon père a coupé les ponts de son côté, puis c'est toujours des histoires avec, tu vois, des vieilles traditions, deux Tunisiens qui, à un moment, ne s'entendent pas sur un sujet, voilà, 30 ans d'absence. Pour te résumer un peu comment ça peut se passer dans notre famille.
C'est
un caractère, c'est tellement... je sais pas si c'est une fierté, si c'est... Je sais pas. Alors que nous, on était juste enfants, tu vois, on paye le prix sur 30 ans, sur 15 ans, sur 10 ans, c'est... Voilà. Arrivé à un certain âge, c'est soit tu subis, soit tu t'échappes. Pour mon hygiène de vie, c'était mieux de m'échapper et de m'éloigner de toutes ces histoires. Parce que c'est rempli d'histoires et c'est trop.
Bah moi, je suis dans une période où j'ai envie de me plonger à fond dans ces histoires. Tu vois, j'ai déjà un peu commencé. Mais en fait, c'est très dur parce que moi, contrairement à toi, je parle pas arabe. Je le comprends pas. Et en fait, moi, je vais en Tunisie assez régulièrement. J'essaie d'y aller... tous les 2 ans à peu près.
Ah d'accord.
Je vois personne de la famille. Je loge dans des hôtels.
D'accord.
J'ai aucun outil pour retrouver les histoires de famille, quoi.
Donc quand tu vas en Tunisie, tu vois pas tes tantes ?
Eh ben non. Swad, elle parle plus à ma mère. Ma mère ne parle plus à Swad. Les liens sont coupés. Et moi, la dernière fois que je suis allée à Tunis, j'ai eu peur de frapper à la porte de Swad parce que j'avais peur qu'elle m'envoie sur les roses, quoi, tu vois.
Après, t'as ta Swad, ma mère, ta maman... C'est leur vie. Moi, je pense qu'il faut surtout pas rentrer là-dedans parce que sinon, c'est un piège à loup. Hein. On n'est pas assez formé. De 0 à 20 ans, on n'a pas vécu en Tunisie pour comprendre et rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est vraiment très sanguin, très... tu vois, je t'aime, moi non plus, je t'aime plus, je te retrouve pas. C'est des allers-retours constants et chaque petite histoire peut devenir une histoire gouvernementale.
Et, donc, et quand tu me disais que tu avais repris contact avec ton oncle, tu parles de Hamid ou de Nordine?
Tonton Nordine. Tonton Nordine, je demande souvent des nouvelles, mais apparemment c'est silence radio. Même quand j'étais allé voir grand-mère à l'époque, j'étais allé voir Tonton Arsène, j'étais allé voir Waffet, j'étais allé voir Baya, sa femme, j'avais vu pratiquement tout le monde, sauf que Nordine, introuvable. Voilà.
Nejia, elle est née en 40. Arbia, 42. Nordine, il est en 46. Et Hassen, il était en 45, oui. Et Fatma, elle est 49. Hamid, 50. Et Souad, 52. Et moi, 54.
D'accord. Donc toi, t'es la petite dernière.
Je suis la dernière.
Et tu dormais dans une chambre avec des frères et sœurs ou...
Ah oui. Alors, moi, j'étais avec Souad, Fatma et Nejia. Et les garçons, ils ont leur chambre tout seuls parce qu'il est trois. Et Arbia, ce trois, un petit renfoncement à elle, personne n'entre dedans. Elle était un peu égoïste. En vieillissant, c'était autre personne. Pessona, mais elle était très indépendante et elle voulait être seule. D'ailleurs, quand elle s'est mariée, son mari est décédé, ça ne se faisait pas à Tunis. Elle habitait seule, elle a sa maison, tout ça, toute seule.
Et donc toi, la petite dernière, qu'est-ce que ça supposait dans ta famille? Qu'est-ce que quel statut?
J'étais choyée, mais par contre choyée, mais dirigée par quelques-uns. Il faut que j'obéisse, il faut que je marche droit. Alors, c'était Arbia, c'était mon frère Nordine aussi. Il fallait faire tout ce qui est ménage à fond, machin. Nordine, si je lui dis, je vais y aller au bain, je vais y aller truc, il me dit non, tu n'iras pas. Le chef, tu vois. Mais mon père, c'est lui qui me défendait tout le temps. Le plus que je m'entendais très bien, c'était ma sœur aînée. Et Hassen, c'est lui qui est né en 45.
Donc Nejia et Hassen.
Ah oui, Hassen, lui, il était protecteur, il était gentil comme tout. Hassen, je me rappellerai toujours, quand j'allais à l'école, ma mère, elle a peur des poux. On a les cheveux très très longs, elle le serrait pour que ça soit pas, il n'y aura pas de poux. Hein. Et quand je le rencontre, je pleure, je lui dis c'est serré. Il enlève les couettes, et il me peigne, il me dit ah, tes cheveux lâchés, tu peux y aller.
Et Nordine, pourquoi il a disparu, lui?
Il a disparu parce qu'il a une femme terrible, mais vraiment. Et il est dirigé par ses filles et c'est hallucinant. Arbia, avant qu'elle décède, elle a été le voir pour lui dire pendant l'Aïd, les gens se pardonnent, tout ça. Et elle a été, il a ouvert la porte et lui a dit « Pourquoi tu viens pour me déranger ma vie, pour me rendre malheureux avec ma famille ?» Elle est partie en pleurant, mais elle me dit « Mais j'y vais plus. » Ça n'a jamais marché entre Arbia et Nordine. Depuis leur jeune âge, n'a jamais marché.
Et pourquoi ?
Va savoir pourquoi. Il ne peut pas la supporter, elle ne le supporte pas. Il se déteste. Quand elle passe dans la pièce, il ne veut pas la voir. Et mon père, il a essayé de mettre les choses, mais il n'y a rien à faire.
Ouais, tu vois, je découvre quand tu me parles là, parce que moi, je me dis, cette fratrie de maternelle, elle avait l'air tellement dans la joie, dans l'union. Enfin, moi, quand j'ai des souvenirs très, très furtifs de petite à Tunis, où j'avais l'impression d'être entourée de beaucoup de monde,
ah oui,
de
oui.
beaucoup d'oncles et tantes qui... Et je me souviens des rires, je me souviens des conversations.
Oui, mais...
Et je me dis, mais en fait, aujourd'hui, il y a
hélas.
Beaucoup de liens.
Ouais.
Mais finalement, quand tu me racontes un petit peu les choses, le lien était un peu abîmé, quoi.
Oui,
déjà.
Oui.
C'est une histoire ancestrale, enveloppée de méfiance, de mensonges et d'hypocrisie, entremêlée de petites trahisons, d'accusations mutuelles, d'allégations, truffées d'intrigues, de rancunes, d'immodestie, d'insultes, et parcourue d'histoires d'amour étouffées, de fœtus avortés et de filiations secrètes. C'est cette histoire dont je témoigne pour toi aujourd'hui, ma fille, sans intermédiaire. C'est mon origine et la tienne. Ou si tu veux, mes chaînes et les tiennes.
Le livre d'une autrice tunisienne, Amira Ghenim, m'est arrivé entre les mains comme une sorte de bouée dans cette période de questionnement. Le désastre de la maison des notables. Une saga familiale tunisienne frappée par la disgrâce et le silence et qui s'étend sur un siècle. J'y ai retrouvé une géographie, des goûts, des odeurs et aussi des mots et des attitudes qui ont réveillé en moi quelques souvenirs de mon enfance face au langage crypté de mes oncles et tantes. Les yeux qui se baissent et les bouches qui se tordent quand leurs mots semblent dire le reproche.
Avant, tout le monde vivait dans une grande maison, les frères et les cousins. Et donc, il y avait cette famille vraiment très large où les relations sont à la fois intimes, mais en même temps où le nombre d'enfants dans la même maison fait que l'attention n'est pas portée de la même manière pour tous. Et donc, c'est là que les jalousies se nourrissent. C'est une arme à double tranchant, si on peut dire. D'un point de vue relationnel, être en un grand groupe, ça nous aide à bien communiquer, à bien vivre en ce petit microcosme. Mais c'est aussi un terrain de conflit très important et là où des souvenirs d'enfance, des conflits naissent et peuvent avoir des conséquences plus tard. La famille tunisienne d'aujourd'hui est beaucoup plus petite. Ce qui est peut-être vraiment très spécifique, c'est que les frères et sœurs vivent ensemble très longtemps, au sein de la même famille. On ne quitte la maison parentale que lorsqu'on est marié. On peut avoir un frère de 40 ans qui vit avec sa sœur de 42 ans, chez le père et chez la mère. Ce vivre ensemble peut être source d'amour, de toutes choses positives, mais en même temps, ça peut être aussi source de conflits, de problèmes. Généralement, quand il y a des problèmes entre frères et sœurs, ce sont des problèmes qui sont enfouis et qui brutalement émergent à cause de quelque chose qui se passe. Et généralement, cette chose est un enjeu matériel qui se présente généralement après la mort des parents. Donc, il y a la question de l'héritage. Et là, il y a des haines anciennes qui sont généralement liées à des blessures d'enfance. Tout ce qui est en rapport avec l'image de l'enfant aux yeux de ses parents. Tout ce qui est en rapport avec l'injustice dans le traitement. Et la famille, elle est toujours concernée par le paraître. Il faut être beau, honorable aux yeux des autres. Et on a toujours tendance à cacher les tares, à cacher tout ce qui peut nuire au statut de la grande famille. Et donc oui, on cherche à enfouir les secrets. Les tabous, ils sont très très nombreux. Pas seulement lié à l'homosexualité ou à les trucs en rapport avec tout ce qui est sexuel, non. Même à propos de certaines maladies psychiques, ça touche les relations hommes-femmes, ça touche les relations hors mariage, ça touche même les raisons de divorce, ça concerne aussi l'éducation des enfants. Et donc, voilà, oui, on essaie de paraître sous un jour différent de ce que l'on est vraiment.
À cette même période, j'ai poussé plein d'autres portes inattendues. La constellation familiale et même le tarot. Je m'arrime à tout ce qui peut me donner des pistes, même infimes, des réponses, même partielles, même un peu fantaisistes. Je veux juste qu'on me réponde.
On a tous les symboles. On a les bâtons, on a les deniers, on a les coupes, on a les épées. C'est un tirage assez complet. On a une arcane majeure, le mat. Je vais commencer dans l'ordre. Ici, le 9 de bâton, au cœur de la question du tirage. Le 9 de bâton, il se sent enfermé par des décisions, peut-être. Mais il faut réaliser que ça n'est qu'une illusion et qu'on peut continuer. Ici, c'est d'où tu viens. Zéro. Tout début du tarot. Le mat, aussi appelé le fou, c'est celui qui démarre un voyage en fait. Donc il démarre son voyage avec rien du tout, un petit baluchon sur le dos, il s'en fiche. Il sait pas dans quelle direction il va, mais il y va. C'est un questionnement sur lequel tu vas avoir besoin, tu es parti de rien et tu vas avoir besoin d'aller au bout des choses. Et ici, c'est ce qui t'attend sur cette question. La suite d'épée, elle est dure dans le tarot. Elle est dure pourquoi ? Parce qu'elle va représenter le besoin de trancher quelque chose. Le 2 d'épée, c'est une femme
qui se protège, qui se surprotège, mais qui ne sait même plus de quoi elle se protège. Elle a les yeux bandés, elle regarde même pas, mais elle a ses deux épées, en effet, qui sont contre son corps et surtout contre son cœur. Donc elle protège son cœur, en fait. Tu vas probablement arriver sur ce questionnement à un moment où tu vas avoir envie d'abandonner, je ne sais pas, une déception, une tristesse, une colère, et on n'a plus envie, en fait. On n'a plus envie d'avancer, on se surprotège. Il ne faut pas abandonner, bien sûr, puisque le mat, il part faire un voyage, il faut bien qu'il le termine. On est d'accord. Et alors, ce que je fais souvent, c'est que je regarde la lame de coupe, la papesse, magnifique, très belle arcane majeure. La papesse, elle va représenter tout ce qui est secret, caché, tout le travail qu'on va faire dans l'ombre. La papesse, elle représente vraiment l'intuition, toutes les choses qu'on garde un peu pour nous, qu'on cache dans l'ombre, et le travail. Elle va représenter tout ce qui est lié à la mémoire, voilà, des choses qui ne peuvent pas bouger. Enfin, il y a tout un travail, j'ai l'impression, de mémoire, d'acceptation peut-être d'un passé qui ne pourra pas bouger, mais que toi, peut-être, tu pourras faire bouger dans ta réflexion pour le mettre au jour.
Je peux te dire ce à quoi elle me fait penser, parce que cette carte, elle me semble très éloquente, cette carte. Là, il y a 4 bâtons, et en fait, ce sont 4 personnes, comme mes 4 frères et sœurs, en fait. Ces 4-là, ils se détachent,
oui,
du reste.
Complètement.
Et le personnage les regarde d'un air à la fois contrarié. On ne sait pas s'il est en colère ou s'il leur en... Enfin, si, amer, en fait.
C'est vrai qu'ils sont dissociés, ces 4 bâtons. Ouais.
Et je ne sais pas si j'ai envie de les contourner ou de me mettre entre eux, mm-hmm, ou de les...
les hacher. Pour pouvoir passer.
Linda, je ne sais pas si tu es au travail ou pas. Écoute, pour te dire franchement les choses, je ne comprends pas tellement ce silence. Je comprends que ce soit difficile pour toi, cette vérité que je t'ai apprise il y a maintenant 4-5 ans. Mais je ne comprends pas que je sois confrontée au silence, à ton silence, en fait. Ça me fait du mal, pour tout te dire. J'ai cru, quand on s'est retrouvés autour du corps de Pierre le jour de ses funérailles, qu'on scellait quelque chose de l'ordre de notre lien à toutes les deux. Et moi, je crois toujours très fort que tu es ma sœur, envers et contre tout, malgré ce lien qui n'a pas pu se construire parce que, à cause du secret, à cause du silence. Et en fait, je suis un peu triste depuis quelques semaines de savoir que tu réponds pas ou que tu veux plus me parler. Et t'as le droit, en fait, t'as tout à fait le droit de ça. Je comprends très bien. Je t'embrasse très fort, tout de même. Sache que je ne t'en veux pas. Je suis juste un peu dans l'incompréhension et dans une forme... Enfin, dans la tristesse, en fait, pour tout te dire. J'espérais trouver avec toi la douceur fraternelle qui me manque. Et je suis confrontée à des murs de partout dans cette famille et je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus d'être aussi seule. À très vite. Ou pas.
Qu'est-ce que c'est être une sœur? Qu'est-ce que c'est avoir des frères et sœurs?
Frères et sœurs, ça, c'était quand tu peux lui raconter ce que tu veux à... Pas tous, tu vois, à Neja, je pouvais le raconter. Neja, elle était fiable.
Neja, tu lui faisais confiance?
Ah oui, Neja, je lui faisais confiance. Par contre, quand ils sont tous mariés, ils sont tous partis, je me suis sentie vraiment seule. J'étais avec ma mère toute seule. J'avais 15 ans. Chacun sa famille, il venait pas. D'une maison remplie, il n'y a plus personne.
Est-ce que tu penses que tu as été aimée par tes frères et sœurs?
Oh oui, je pense, je, quand même, surtout à Sen jusqu'à la fin, qu'il se rappelait de rien, parce qu'il était un peu Alzheimer. Quand je suis rentrée, il me dit « Ah, t'es venue avec ton mari ». Et ça, sa femme, elle m'a dit « se rappelle de rien, tu vois, tu es rentrée et il s'est rappelé de toi ». C'est quand même incroyable, ça me reste, tu vois.
Et parmi les vivants, bah, il reste Nordine. Mais
Nordine.
On voit
mais,
pas.
Personne ne le voit, Nordine. Hein.
Il vit où aujourd'hui, tu sais?
À Tunis, mais je ne sais pas où. Reste Souad, Fatma et Hamid qui est en Belgique. Que lui, du jour au lendemain, quand je l'appelle, il ne répond pas. Alors, j'ai arrêté.
Mais ça t'intéresse pas de savoir pourquoi ?
Ben si, mais tu sais, il y a un moment où il faut lâcher. Il ne veut pas me dire pourquoi, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
Mais pareil, tu vois, ça fait bizarre d'apprendre la mort d'un oncle sur Internet. Et puis, il y a Jalila qui m'avait dit il y a longtemps, moi, cette famille, je ne veux plus rien savoir sur cette famille, alors que c'était ma cousine et qu'elle était très proche de nous tous.
Oui.
Et je me dis, mais pourquoi plus personne ne veut entendre parler de cette famille ?
Oui, parce qu'il se bouffe tout seul.
Mais non, on peut pas se bouffer tout seul.
Oui, mais c'est quand même terrible que tu sais même pas, c'est pour des petits trucs de rien.
Il y a bien quelque chose. Moi, ma génération, mais même Didier, il le paye un peu aussi de son côté. Ouais. Ce silence, la génération de vos enfants, nous les cousins, on paye cette non-famille, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des liens entre nous. Et puis, en fait, je me demande ce que ça va donner pour la génération de marins et des enfants. Oui. Enfin, tu vois, je me dis, tout ça ruisselle. C'est quoi l'origine de toute cette animosité, de toute cette rancœur, quoi ? C'est quoi l'origine ?
Je ne comprends pas. C'est même pas de jalousie. Je ne comprends pas. Et je trouve ça lamentable en vieillissant. Tu vois bien. Regarde, Arbiel venait. Il ne fallait pas que je sache. Je sais que Arbiel, son fils et son mari... Je ne peux pas t'inviter parce que c'est sa belle-fille et qu'elle ne veut pas, elle veut que nombre limité. C'est des broutilles qu'ils se pourrissent la vie.
Bah oui, c'est que les naissances et les morts, en fait, on n'est même plus au courant. C'est-à-dire qu'on doit presque mener l'enquête en permanence dans cette famille pour savoir quelque chose, quoi, tu vois. Moi, je veux travailler pour le futur, c'est-à-dire que moi, j'ai envie que Marin il puisse avoir un lien sain avec sa demi-sœur.
Et c'est... Oh, bah, il parle bien d'elle. Ah, oui,
après, il ne se voit pas souvent.
Oh, non, bah, oui.
Et c'est pas simple. Tu vois, enfin, à son âge, tout est simple, mais
oui, c'est pas simple
à l'âge aussi. De sa sœur, rien n'est simple.
Simple, donc... parce qu'il y a une différence d'âge aussi.
Oui, ici. Oui. Et je me dis, j'ai pas envie que dans notre famille, la fratrie, ce soit synonyme de chaos ou de malheur, tu vois, ou de blessure. Comment faire, tu vois ? C'est pour ça que je cherche des réponses. J'essaie de comprendre ta famille, mais c'est dur, quoi. C'est bizarre que dans notre famille, il n'y ait pas de cause, vraiment de raison. Pour que ce soit autant le chaos.
C'est vrai que toi, tu es demandeuse. Didier, il n'a jamais été demandeur, hein ?
Je trouve ça important de savoir ce qui a cassé, parce que pour qu'il y ait cassure, il faut qu'il y ait un impact.
Oui, franchement.
Un coup porté, quoi. C'est pas des petites embrouilles qui font que plus personne se parle plus jamais et que ça ruisselle sur les générations d'après.
Je t'assure qu'il n'y en a ni mort, ni inceste, ni viol, ni rien. De tout ça, je peux t'assurer, c'est vraiment des broutilles à la con. Quand je me dispute avec...
On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux morts et à l'inceste.
Non, pour dire, vois, mais... pour dire, parce que les gens, ils se coupent comme ça, bah, c'est cette cause quand même. Mais là, quand tu regardes, franchement...
Est-ce que vous aimeriez faire évoluer un peu la situation, faire bouger certains personnages, vous rapprocher, vous, de quelqu'un dans tout ça ?
Bah moi, j'aimerais... idéalement, j'aimerais que Linda fasse un pas vers moi. J'aimerais qu'elle me regarde, Linda, en fait.
Vous pouvez lui dire, Linda, je suis ta petite sœur.
Ouais, c'est ça, Linda, je suis ta petite sœur.
J'ai besoin de toi.
J'aimerais bien que tu sois là.
Est-ce que vous sentez que ce serait possible qu'elle vous regarde, qu'on la retourne ?
Oui, je pense que ce serait possible. Elle l'a déjà fait par le passé. Notre premier contact physique, ça a été un vrai instant de regard. On s'est regardé pour se reconnaître, en fait.
Non, ce qui me vient, ce serait de placer votre maman derrière vous, puisque là, il y a votre... père biologique qui serait à peu près en position d'être derrière vous quand même, voilà.
Donc ma mère derrière moi et mon père biologique derrière moi.
Comment c'est de les avoir derrière vous ?
J'ai l'impression d'être un peu plus considérée par la fratrie.
Ah voilà, vous avez une filiation, vous venez de cette mère et de ce père-là. Et puis d'un seul coup, c'est comme si, oui, il y a un peu plus d'espace pour que vos frères et sœurs vous regardent, là. Hein.
Oui. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est bizarre parce qu'ils n'étaient pas forcément devant moi, mon père biologique et ma mère. Et pourtant, qu'ils soient passés derrière moi, ça me rend plus visible aux yeux des frères et sœurs.
Alors, est-ce qu'on pourrait placer votre père non biologique aussi derrière? Comment c'est, là, si je le mets là? Donc, aux côtés de votre maman, derrière vous aussi, parce qu'il vous a élevé, ce père, quand même.
Ouais, c'est bien, là.
C'est pas mal.
C'est bien parce que devant moi, il n'y a que ma fratrie, en fait.
Et alors, est-ce qu'on redresserait aussi un peu tout le monde, là? Parce qu'on a une maman qui est un peu en déséquilibre. Là, je la remets un peu sur ses pattes. Et peut-être qu'on peut essayer de redresser les papas aussi. Pour que les grands puissent être les grands, pour pouvoir un petit peu alléger les petits. En l'occurrence, c'est vous la plus petite là, dans tout ce monde-là qu'on a placé là.
Voilà. Je vais t'apporter des fraises, d'accord?
Ouha, oui, des fraises! Maman, même si on aura un bébé, quand on aura un bébé, tu l'attendras dans ton ventre. Et une fois qu'il sortira, s'il a envie d'un bon biberon, tu le portes sur tes genoux, mais c'est moi qui lui donne le biberon.
Toi, t'aimerais bien avoir un frère ou une sœur?
Ouais, mais j'ai déjà une sœur.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'une sœur?
Une fille qui s'appelle une sœur.
Mais c'est quoi une fille qui s'appelle une sœur? Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle nous apprend des choses. Elle nous montre des choses.
Elle montre quoi?
Elle montre les tapes à mon ref.
Tapes à mon ref?
Mais...
C'est Mao qui te dit ça? Elle te fait des checks pour que tu lui tapes dans la main et elle dit tape-la mon ref. Qu'est-ce qu'elle t'apprend encore?
Elle m'apprend Titi.
C'est qui Titi? C'est quoi?
C'est Titi, un petit agneau.
Oui.
Il est perdu.
Elle te raconte cette histoire-là. Et toi, qu'est-ce que tu lui apprends à Mao? Tu dois sûrement lui apprendre des choses.
Hein. Et non.
Bon, t'es sûre de ça?
Oui.
Moi, je suis sûre que tu lui apprends des choses. Tu lui apprends à sauter depuis la coudoir du canapé, non?
Et moi, qu'est-ce que je lui laisse à mon enfant? À mon tour, une tante et des oncles inexistants. L'histoire se répète. Marin est lui aussi le fils d'une famille recomposée. Il a une demi-sœur de 10 ans de plus que lui. Aujourd'hui, je me raccroche pour eux deux à ces petits échanges furtifs et joyeux qui fondent malgré tout leurs liens, même s'ils ne partagent pas le même quotidien. Je sais que ce n'est déjà plus mon histoire. Je sais aussi qu'une relation n'est jamais figée. Mais parfois, je ne peux m'empêcher de penser qu'avec mon bagage, j'aurais peut-être une part de responsabilité si mon fils et ma belle-fille ne parvenaient pas à devenir des frères et sœurs sinon soudés, du moins présents l'un pour l'autre tout au long de leur vie. Je ne veux pas que cette histoire se perpétue. Mais si je décolle un peu mon nez de la vitre, je vois une issue possible à ce que je considère parfois, de manière un peu abusive sans doute, comme une malédiction. Et cette issue, c'est le père et l'oncle de mon fils qui me la montre.
Avoir un frère, en fait, c'est l'amitié plus l'inconditionnel, en fait. C'est une relation inconditionnelle, dans le sens où, moi, avec mon frère, j'ai pu m'engueuler, avec des amis aussi, mais la différence, c'est qu'avec mon frère, le geste qui suit, c'est qu'il faut régler le truc. Pour un ami, ça se pose. Est-ce qu'on le règle ou pas? Pour son frère, ça se pose pas. Il faut le faire. Enfin, tu vois,
c'est un ami qui peut pas se casser, en fait.
Non. En fait, être frère, c'est avoir un vocabulaire commun, en fait. C'est-à-dire des mots qui vont aller au-delà du sens. Si je dis moissonneuse-batteuse, par exemple, ça va avoir un sens pour Étienne qui est différent de pour tout le monde.
C'est que les mots, au-delà de leur définition, de ce qu'on peut voir dans le dictionnaire, renvoient à une expérience commune, sensible, partagée. C'est notre vie à la ferme, dans le midi. C'est un mot peut-être un peu clé de nos premières années, qui a été dit et bien dit. C'est quand même long comme mot, et donc on l'a... Je sais pas, moi je le vois comme ça, comme un élément du répertoire qui définissait notre environnement.
Voilà, on a vécu dans une ferme, dans le midi, là où notre mère était agricultrice. On était dans la même chambre. On a ensuite emménagé à Paris. On était dans la même chambre. Alors moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, ça.
C'est vrai que quand on y pense, on a vécu quand même pendant 7 ans dans une pièce qui devait faire 8 mètres carrés, avec des bureaux en dessous, des lits en hauteur, et on a vécu dans une complicité, dans une proximité incroyable. Je pense qu'il était temps que ça cesse à un moment donné avec la fin de l'adolescence, et c'est ce qu'on a pu faire, mais moi, ça ne m'a pas pesé, et donc ça a voulu dire quand même... Bon, alors, avec l'adolescence, énormément de films ensemble, de soirées, de... Enfin bon, il y avait quelque chose de très simple quand même, alors que la proximité, je pense, ferait bondir plein de gens.
On est parti très jeune de notre domicile. Moi, j'avais pas encore le bac, et donc on a eu un appart. Et quand même, financièrement, il s'agissait pas qu'on habite différemment de à deux, en tout cas, en l'occurrence à trois, puisqu'on était avec un troisième comparse. Et puis, quand ce bail-là s'est terminé, on a finalement trouvé encore un autre appart, et on a atteint dans cette deuxième cohabitation une limite en fait, qui est un peu la limite finalement de deux frères qui, à un moment donné, prennent leur envol.
Moi, je veux dire juste un mot, que je me souviens que ça a quand même, ça m'a blessé, mais je trouvais ça totalement, totalement bien. C'est juste que j'ai senti la fin d'une époque. Ça a quand même globalement correspondu à notre vie de couple, quoi, qui pouvait difficilement s'accommoder d'une fratrie aussi réunie, quoi.
Sauf que, on a effectivement développé chacun et ensemble des amitiés durables. Et elles sont encore un trait d'union, finalement, entre mon frère et moi. C'est-à-dire que c'est encore du commun et du collectif qu'on a construit autour de ça. Ça nous a permis, en fait, je pense, de continuer d'arroser la plante, en fait, quelque part. C'est-à-dire que l'enfance est un territoire, le territoire d'une nostalgie, d'un monde passé qu'on ne cesse de convoquer dans nos souvenirs. Mais en réalité, Étienne et moi, on a continué à arroser le contemporain.
Moi, je me souviens d'une époque, parce que des fois, j'en ai la nostalgie, mais en même temps, c'est bien peut-être d'avoir changé, mais d'une époque où on s'appelait tous les jours avec Rémi. Tous les jours. C'était simple. Et ça a duré une dizaine d'années, en partageant des dizaines, des centaines de soirées, des dizaines de voyages, de week-ends, etc.
Comment c'est là pour vous ?
J'ai toujours aussi mal au crâne, mais et je sens mon nez qui chauffe. Mais j'ai l'impression que les choses s'ordonnent. Et mes trois parents en ligne derrière moi, et je suis un peu entourée par toute ma fratrie, même si elle est loin. Oui, il y a un ordre là.
Je recule un peu les parents là pour vous laisser un peu d'espace aussi. Avec votre fratrie, voilà.
Ouais, là, tout le monde se regarde. Tout le monde me regarde à peu près. Mon frère Didier, bof bof, mais il est devant moi, il peut pas trop m'éviter quand même. Et je suis au centre.
Vous pouvez leur dire à tous là, je suis Émilie, je suis votre petite sœur. C'est moi la petite dernière.
Ouais, je suis Émilie et je suis votre petite sœur. Je suis la petite dernière.
On va voir ce que ça fait si on vous remet dans l'ordre de la fratrie. Si on remet un peu la fratrie dans l'ordre.
Je suis votre petite sœur.
Ça ferait ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Là, si vous êtes à votre place, là, dans la fratrie.
Cette phrase toute bête me fait ressentir que même sur cette terre brûlée de ma fratrie, quelque chose existe de toute façon.
Comment c'est, là ?
Philippe, Patrick, Linda, Didier. Tous ces gens qui ne se connaissent quasiment pas et ne me connaissent pas beaucoup plus, au fond, sont liés, qu'ils le veuillent ou non. Et leur lien, c'est moi.
Donc là, je vous ai replacé donc à la gauche de tous vos frères et sœurs. En demi-cercle, ouais, on a Philippe, Patrick, ouais. Linda, Didier et vous.
C'est pas mal. Sauf que quoi qu'on fasse, mon frère Didier me regarde pas. Là, j'ai envie de lui dire pourquoi tu me regardes pas.
Et qu'on vous tourne l'un face à l'autre, l'un face, ouais. Comment c'est là ? Vous êtes face à face.
Ouais. J'ai envie de lui dire affronte-moi. Pourquoi tu veux pas me regarder ? Qu'est-ce que je représente pour toi ?
Moi, ce que je sens là, quand ils se regardent tous les deux, quand vous vous regardez là, vous et votre frère, c'est une émotion ici là.
Une émotion du côté de mon père biologique ?
De votre père non biologique.
Ah oui, non biologique, pardon. Oui, c'est vrai.
Il y a quelque chose qui est ébranlé à cet endroit-là, dans cette confrontation. Là, vous disiez, c'est au moment où vous lui avez annoncé que vous n'étiez pas la fille de votre père. C'est ça que ça s'est un peu brisé avec votre
ouais,
frère.
Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là.
Peut-être on peut l'avancer, ce père. Ouais. Et puis lui faire dire, je reste votre papa, à tous les deux.
Oui, c'est ça. Oui, mon père, c'est ce qu'il m'a dit. C'est que tu restes ma fille, je reste ton père et... Quoi qu'il arrive, quels que soient les secrets qui surgissent ou pas, mon père non biologique, c'est mon père. Et c'est aussi le père de mon demi-frère. Ouais, je reste votre papa à tous les deux.
Je reste votre papa à tous les deux. Moi, ce qui me vient là, ce serait, regardez, de lui retirer le casque. Comme si là, il peut vous regarder sans protection. Voilà.
Merci à mes parents, à Marwan, à Ahmed, à Marin, à Rémi et à Étienne.
Ce qui me viendrait presque, là, ce serait de vous rapprocher tous les trois, là. Comme de vous prendre dans les bras tous les trois.
Mon père, Daniel, mon frère Didier et moi.
Que ce lien-là, il existe, un lien qui serait au-delà des liens du sang, mais qui est très fort.
Merci aussi à l'écrivaine Amira Ghenim, à la taromancienne Mathilde Viau et à la psychologue clinicienne Raphaël Lavandier.
Bah peut-être ça pourrait être une fin de constellation.
Prise de son studio, Philippe Thibault. Mixage, Guillaume Ledu. Attaché d'émission, Aurélie Marsay. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet.
Pour l'honneur des travailleurs, si Macron ne veut pas, on est là.
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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur,
l'expérience, Aurélie Charron et Inès Duperron.
Même si Macron ne veut pas, on est là.
Bravo. Là, t'es prêt pour ta première manif alors?
Oui. C'est ma soeur qui m'a appris ça.
Ouais. C'est un travail d'équipe.
Oui, c'est un travail d'équipe.
Être une sœur, un documentaire d'Émilie Chaudet.
C'est une chanson d'équipe.
Mmh.